ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour.
Donc nous recevons Daniel Poucon, qui est photographe, qui est déjà venu ici plusieurs fois pour différents types de photos, dirons-nous. Cette fois-ci, c'est une exposition qui est présentée à l'espace de la laïcité et de la diversité rue d'Aubuisson. Elle est présentée jusqu'au 3 décembre. Voilà. Le vernissage est demain, 18h30, me semble-t-il. Voilà. Et donc, c'est consacré aux agressions sexistes et sexuelles. Et donc, il y a 20 femmes qui sont concernées.
10, en fait.
10
10 femmes concernées. Mais chaque femme a 3 photos. Donc, en fait, ça fait 30 photos. Voilà.
Oui, d'accord. C'est moi qui ai mal... Oui, ça, j'ai bien compris, les 3 photos. Donc, j'aimerais savoir, d'une part, comment vous avez eu envie de travailler sur cette thématique et comment cela a pu se faire. Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez envie de faire depuis fort longtemps ?
Bien, tout d'abord, en fait, c'est une thématique sur laquelle la thématique de la femme, la thématique de l'égalité femmes-hommes-filles-garçons, c'est une thématique sur laquelle je travaille depuis de nombreuses années. Le cheminement, la construction de l'identité, etc. Donc, c'est une thématique qui fait partie de ma démarche. Et puis, il y a donc un peu plus d'un an, j'étais contactée par le CROUS qui m'a sollicitée pour répondre à l'appel à projet, justement, égalité femmes-hommes de la mairie de Toulouse. Et j'ai répondu, j'ai proposé de répondre avec ce travail précisément.
Voilà, donc qui s'appelle « Des mots à l'image », j'ai oublié de le dire, je crois.
C'est ça, « Des mots à l'image ». Donc, du coup, j'ai saisi cette opportunité qui, pour moi, était complètement dans ce que j'avais envie de faire. Voilà. Et donc, j'ai proposé de travailler sur un travail d'exposition artistique. Voilà.
Oui. Pour mettre un peu de distance et essayer de... Ouais.
Oui, et puis essayer, j'avais envie de montrer ces faits affreux, je dirais, sous un angle un petit peu différent de ce que j'avais, me semble-t-il, vu jusqu'à présent. Voilà.
Et puis c'était aussi, après nous en parlerons durant l'entretien, mais des photos qui sont bien précises avec soit une main, soit une chevelure. Enfin, c'est un côté très esthétique et justement ce qui caractérise aussi ces personnes, soit qui ont de belles chevelures rousses ou qui ont des... il y a tout ça, ou qui ont certaines attitudes, enfin qui aiment se présenter de telle ou telle manière, dans le choix aussi des vêtements qu'elles portent. Enfin, c'est aussi quelque chose justement qui leur correspond. Et qui est aussi lié à la beauté, enfin...
Alors, effectivement, donc, vous avez vu l'exposition.
Et oui, j'ai été là.
Je suis contente de comprendre que, justement, vous avez compris beaucoup de choses en voyant ces images. Donc, c'est que ça marche, tant mieux. Ces images... Donc, quand même, ce qui est important de préciser, c'est que ces femmes sont sous couvert de l'anonymat.
Bien sûr. Et vous avez passé beaucoup de temps avec elles. Parce que, déjà, comment... Quelles sont celles qui ont répondu ? Comment ça s'est passé ?
Comment ça s'est passé pour les rencontres ?
Oui. Alors. Mais surtout, comment elles ont été contactées ? Est-ce qu'elles sont venues spontanément ? Comment cela s'est fait ?
Alors, c'était là, effectivement la première étape, je dirais, la première étape de ce projet, c'était de la rencontre de ces femmes qui avaient envie de témoigner.
D'âges différents, de professions différentes.
D'âges différents, de professions différentes.
De personnes très jeunes,
voilà,
à des personnes à la retraite.
Voilà, la plus jeune
à 20
à 20 ans et la plus âgée à 71 ans. Et on a des profils de carrière très, très différents. Donc des environnements socioculturels complètement différents, ce qui montre que bon voilà, il y a pas de on peut pas faire de généralité absolument.
Ça arrive dans tous les milieux,
dans tous les milieux, à tous les âges,
dans tous les quartiers, dans toutes les circonstances, voilà. Dans toutes les villes,
voilà, malheureusement, il y a pas de règles là-dessus. Alors, comment j'ai rencontré ces femmes? Ça, c'était vraiment une première difficulté.
Et oui, parce que, une vraie difficulté.
Parce que, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de femmes qui ont vécu ce genre d'agression, mais des femmes qui avaient envie de témoigner. Et pour moi, ça a été très, très, très compliqué. Donc, ça s'est fait que par le bouche à oreille, en fait. Le bouche à oreille, le réseau, la discussion.
Mais comment l'ont-elles su? Puisque vous me dites qu'au départ, c'est le Crous qui vous l'a demandé et c'est parrainé par la mairie de Toulouse. C'est bien ça?
Alors, c'est un projet, effectivement, qui est un projet de la mairie de Toulouse. En fait, c'est vraiment, moi, j'ai parlé. J'ai parlé à beaucoup de monde. J'ai dit, voilà, je
travaille
sur ce projet. Est-ce que tu connaîtrais
quelqu'un qui éventuellement
qui aurait subi ce genre d'agression et qui aurait envie d'en témoigner, d'en parler, de voilà. Et ça s'est fait comme ça. Et donc vraiment par le bouche à oreille. J'ai aussi travaillé avec une psychologue qui s'appelle Josène Carré, qui par ce biais aussi
une psychologue clinicienne, j'imagine.
Psychologue clinicienne qui m'a aussi mis en contact avec des personnes. Donc ça s'est fait vraiment petit à petit et pas simplement. Voilà. Contrairement à ce que moi j'aurais imaginé au début. Je pensais presque, je me disais, tu vas être submergée.
Ah oui, que beaucoup de personnes allaient arriver.
Je me suis dit, tu vas être submergée.
Je ne vais pas pouvoir tout faire.
Comment je vais faire? Mais alors là, ça n'a pas du tout été aussi simple que ça. Voilà. Pour autant, ça s'est fait. Voilà, ça s'est fait. Et je pense que c'est pas facile, hein, d'une part, soit de vivre ces agressions et de passer ensuite le cap, d'en parler, d'en témoigner.
De les revivre,
c'est
entre
vraiment,
guillemets. Oui,
c'est vraiment quelque symboliquement chose de très différent. C'est une démarche très différente, quoi.
Et puis de parler à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas au préalable.
Et de parler à quelqu'un qu'elle ne connaît pas, de faire confiance à quelqu'un qui va exposer cette personne, même sous le couvert de l'anonymat.
Mais quand même, oui.
Mais quand même, voilà.
Et les premières rencontres, comment se sont-elles faites? Parce que j'imagine qu'il y en a eu plusieurs avant d'arriver au résultat qui est exposé. Vous les rencontriez où? Dans un endroit neutre dans...
Donc là, j'ai été aidée par la régie de quartier d'Ampalo, qui m'a mis un lieu à disposition, neutre.
C'est à la Brique Rouge, non?
Non, c'est pas la Brique Rouge, c'est dans le quartier d'Ampalo. Et donc, voilà, on a pu faire les rencontres à ce lieu. C'était vraiment très, très, très important d'avoir ce lieu complètement neutre. Où on n'était pas dérangé, où voilà. Et par contre, je ne les ai rencontrés qu'une seule fois.
Ah d'accord. Voilà. Je pensais qu'il y avait eu plusieurs.
Il n'y a pas eu plusieurs rencontres. Il y a eu un contact, d'abord un contact téléphonique.
Oui.
Pour expliquer
la démarche,
comment on allait procéder ensemble, et etc. Donc il y a eu cet échange téléphonique et puis ensuite on a fixé un rendez-vous et on s'est vu une fois.
Mais sur un temps assez long, j'imagine.
Alors, c'était pas très long, plus ou moins long en fonction des personnes, des témoignages et aussi, je dirais, des prises photos. Mais voilà, c'était une fenêtre de 2 heures, de 1 à 2 heures. C'était aussi une volonté de ma part de recueillir cette parole, de faire ces prises de vue, mais aussi de ne pas revenir plusieurs fois sur ces faits qui peuvent aussi être encore potentiellement douloureux.
Oui. Mais attendez, que je vous suive bien, vous les rencontrez donc sur 2 heures, mais entre le moment où vous entrez en conversation, où elles osent parler, où elles se sentent suffisamment à l'aise pour raconter ce qu'elles ont vécu. Donc vous vous enregistrez, c'est ça?
Il y a un enregistrement. Donc là, effectivement, les interviews de ces femmes ont été faites aussi, comme je vous dis, avec l'aide de
la psychologue.
Donc on était à deux, ce qui permettait aussi de rassurer et puis de confronter aussi derrière nos visions. Ce qui était important, ce qui nous semblait essentiel par rapport à ce qui avait été dit. Et je ne sais plus si j'ai répondu à la question.
Non, parce que, bon, 2 heures, donc vous discutez, vous rentrez en contact. Après, j'imagine que toutes n'ont pas eu... Pour certaines, ça a dû être plus long à pouvoir énoncer ce qui leur était arrivé.
Alors, il y avait quand même
un petit
protocole,
oui.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait une question, oui, oui. Voilà, on savait aussi les questions,
oui,
dès le début
qui sont toujours les mêmes.
Qui sont toujours les mêmes. Et c'est des questions qui amènent, voilà, qui amènent le le fait. Et ça a marché plutôt bien, enfin, je veux dire... Les femmes savaient aussi pourquoi elles étaient là, donc je pense qu'à l'avance, elles savaient, elles s'étaient préparées aussi sur ce qu'elles voulaient
dire,
sur quoi elles voulaient s'exprimer.
Mais bon, ça c'est leur histoire, mais après la partie photo, vous prenez d'autres rendez-vous?
Non, tout s'est fait en une fois. C'est un challenge. Hein?
Attendez, là, excusez-moi si j'ai du mal à comprendre, puisque bon, il faut préciser que par personne... Il y a 3 photos, mais dont représentant le lieu où l'acte a été commis.
C'est ça.
Voilà. Alors que si c'est pas Toulouse, vous cherchez quelque chose qui y ressemble. Donc ça suppose de géographiquement de se balader à Toulouse.
De chercher.
Parce que j'imagine qu'elles ne sont pas forcément toutes peut-être dans le même quartier.
Ah, pas du tout.
Voilà. Donc c'est ça. Donc il faut retrouver soit l'immeuble, soit la cage d'escalier, soit le lavomatique, soit des endroits où il y a un fourré. Enfin, c'est précisé comme ça, il me semble, un endroit
Oui, tout à fait.
Donc il faut retrouver ces lieux. Bon, il faut après une histoire de lumière par rapport à votre appareil photo, tout ça. Ça, c'est une première chose, puisque ça, c'est la première image que vous faites, c'est le lieu. Après, avec un profil, vous prenez en photo les personnes de profil, et après, c'est retravaillé, puisqu'en fait, il y a un trait simplement.
Voilà, alors en fait, ouais, il y a vraiment un protocole.
Un dispositif, alors,
les photos qui concernent la femme, qui incarne, je dirais, la femme. Elles ont été faites pendant la même séance. Et effectivement, la photo qui incarne le lieu, celle-là a été faite en différé. C'est-à-dire que c'est moi qui ai fait en rapport à ce qui m'a été dit.
Raconté, oui.
Raconté.
Vous cherchez le lieu.
C'est moi qui vais ensuite faire
dans
une démarche
personnelle
du lieu, de l'heure de la journée.
Oui, parce que ça joue aussi beaucoup.
De l'ambiance. Il faut qu'il y ait personne ou du monde.
Oui.
Ou au contraire. Voilà, il faut que je recrée exactement...
L'ambiance du moment, entre guillemets.
Du moment, de la saison, etc.
De l'heure, oui, tout
de
ça.
De l'heure. Voilà, donc tout ça, c'est fait en différé.
D'accord.
Par contre, les autres photos sont faites pendant la même séance.
Parce qu'après, il y a 7 photos qui recréent le lieu avec le profil de la dame. Après, vous expliquerez par quel procédé vous avez fait, puisqu'après, c'est vraiment une ligne, quoi. Parce que moi, au départ, j'avais cru que c'était un crayon qu'il avait fait, enfin, un pastel. Et ensuite, il y a 2 autres photos, dont de ces mêmes personnes, et qui reflètent quelque chose qui est important. Il y a beaucoup de mains, notamment. Je me souviens de quelqu'un qui donne la main à quelqu'un plus, d'autres la main sur une épaule, c'est pour la même personne. Bon, il y a celle-là, là, avec les arbres, cette personne qui pose les mains sur un arbre, ce qui veut dire beaucoup... Mais les mains, une fois elles sont à plat, pratiquement, une autre fois elles sont beaucoup plus recroquevillées. Après, il y a des personnes qui sont, on voit à partir de la taille, où on voit un blouson. Certaines, ce sont des chevelures, mais jamais le visage, quand c'est je me souviens d'une chevelure très belle, très rousse, très bouclée, c'est comme ça, de dos, on peut dire. Il y a une seule personne, on voit juste jusqu'à ses lèvres. Et selon les autres, c'est soit un pied, un bras, enfin, ou des attitudes bien précises qui veulent le dire. Parce que montrer ses mains, ça veut dire aussi beaucoup, quoi.
Voilà, en fait, c'est très important ce que vous dites, parce que ces 2 photos, elles sont là pour incarner
la personne. La femme.
Oui. Et l'incarner, comme je l'ai dit, effectivement, sous le couvert de l'anonymat, donc on ne doit pas pouvoir les reconnaître.
Les reconnaître, bien sûr.
Et donc c'est tout le challenge pour moi, qui était d'être au plus près de leur personnalité, de faire transparaître ce qu'elles sont dans leur force et dans leur beauté.
Ce qui est important, oui.
Ce qui est important, c'est-à-dire vraiment leur caractère fort, sans qu'on puisse à aucun moment les reconnaître. Alors les mains, pour moi, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui parle beaucoup chez quelqu'un, donc vous avez pu voir, il y a une main tendue, il y a une photo, effectivement, mais il se trouve que c'est aussi ce qu'on me donne, et c'est la magie de la photo, il se passe quelque chose ou il se passe rien. Et si effectivement on a eu des échanges forts, et ça a toujours été le cas, c'est des échanges extrêmement forts, c'est très intense ces moments, il se passe quelque chose. Et en fait, ce quelque chose, c'est ce qui se traduit ensuite dans la photo. Voilà, la personne qui a la main tendue, c'est quelqu'un, j'ai compris, qui était très généreux, qui justement donnait beaucoup aux autres. Et donc, cette main ouverte, c'est quelque chose qui lui ressemble.
Oui.
Ces mains qu'on voit sur l'arbre, c'est une personne qui est très proche des arbres,
de la nature,
très proche de la nature.
Qui a éprouve du réconfort, j'imagine, dans la nature.
Et donc, effectivement, tout à fait. Et donc, ces mains, c'est presque pas une caresse, mais presque une tendresse vis-à-vis de l'arbre. C'est quelque chose qui est fort pour cette personne.
De sensuel, et puis aussi de plus...
Mais aussi de force.
Oui, l'arbre, par définition, donne de la force.
De force et de caractère. Parce qu'en fait, ce qui est quand même aussi important et que je veux absolument mettre en avant, c'est la force qui émane de toutes ces femmes. C'est-à-dire que pour... arriver à témoigner et à prendre un peu de recul, ça a été c'est un chemin long, difficile. Et donc c'est un caractère de courage et de force, et c'est quelque chose que je veux montrer, que je veux valoriser par rapport à ces témoignages. Voilà, donc après, ça peut être des cheveux.
Ah oui, il y a plusieurs avec des cheveux. Voilà. C'est quelque chose aussi, la chevelure, c'est beau, puis bon, c'est lié aussi à la séduction, mais dans aussi... le bon sens du terme, quoi.
Voilà, c'est toutes ces petites choses.
La chevelure, ça caractérise quelqu'un, fait ça, oui, ça le dessine dans la rue. Bon, selon que la personne soit rousse ou brune, c'est pas la même chose. Moi, je me souviens cette chevelure rousse comme ça, très longue, très bouclée. Sur le dos, quoi. Mais on voit cette chevelure.
Voilà, c'est-à-dire qu'on est dans l'image aussi.
Oui, oui, hein, puisque, j'entends bien.
Le titre qui est choisi, c'est aussi l'image. Ah. Donc, on est dans l'image dans tous les sens du terme.
Ce qu'on veut donner aussi de soi.
De ce qu'on montre.
De ce qu'on aime, de ce qu'on veut donner.
Voilà.
Ce qu'on veut garder, ce qu'on veut mettre en valeur.
Il y a l'image en tant que photo et l'image en tant que personne. Hein. Voilà, c'est un peu tous ces notions que j'ai essayé, en tout cas, de faire transparaître dans les photos.
Il y a aussi au niveau des vêtements, je me souviens de quelqu'un qui a le fond qui décrit l'endroit où ça se passait. C'est tout rouge, c'est un fond rouge. Et ensuite, la personne aussi a une écharpe rouge et noir, enfin, sous une veste. Enfin, c'est aussi une façon de se présenter, une façon aussi, les vêtements qu'elle aime. Enfin.
La façon telle qu'elle s'est présentée, en tout cas, donc qui lui correspond.
Oui. À comment elle aime s'habiller, qu'est-ce qu'elle.
Et par ailleurs.
Donc, le vêtement peut être une protection aussi, quelque
tout
part.
Tout à fait, ça veut dire beaucoup de choses aussi.
Puis après, la veste est assez stricte, si je me souviens bien, et puis après, il y a cette écharpe, enfin, qui est croisée rouge et noir, de carreau.
Après, il y a aussi une recherche de il faut que l'ensemble des trois photos fonctionne.
Bien sûr qu'il y a
Il y a eu pas mal de photos qui ont été prises par pour chacune.
Vous étiez seule à prendre les photos?
Non,
vous, c'est unique.
C'est moi qui prenais les photos.
Tout, d'accord.
Oui, c'est moi qui prenais. C'est moi qui ai pris les photos, tout à fait. Et il faut ensuite que ce triptyque fonctionne d'un point de vue du sens, d'abord.
Oui, une logique
qui fasse sens et aussi de la forme et de l'esthétique. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une forme d'esthétique de couleur. Il se trouve que dans celui que vous décrivez, où il y a on va dire du rouge et du
beaucoup
noir,
beaucoup de rouge et du noir,
j'ai beaucoup de noir, en fait il se trouve que les photos que j'ai prises j'ai choisi celles aussi qui étaient les plus caractéristiques par rapport à la construction de ce triptyque.
Oui je comprends bien.
Des choses très symboliques, hein, le rouge qui était aussi symbolique, le noir symbolique, voilà, donc il y a...
Donc on puisse dire.
Voilà, le fond est très important dans ce travail-là.
Il y a une dame aussi qui a un blouson noir, on voit son blouson comme ça de côté, façon cuir.
Oui, peut-être deux.
Moi je me souviens d'un surtout. Oui. Il y en a une aussi, c'est un pantalon qui font bleu, quelque chose comme ça, qui est aussi comme ça, plus ou moins de biais. Enfin, on peut penser qu'elle marche, qu'elle est...
Après, c'est les attitudes.
Les attitudes, oui, bien sûr.
C'est les attitudes...
De chacune.
De chacune, quoi, voilà.
Il y a aussi la dame qui a plusieurs bagues, qui a une cigarette.
Oui, c'est le même triptyque rouge.
Ah, c'est la même, d'accord, je l'avais, d'accord.
Voilà.
Ok.
Donc, il y a ces attitudes de lâcher aussi.
Oui, de ce qu'on veut, comment on veut. Et puis au moment donné aussi, parce que c'est aussi ce qu'elles sont, ce qui reflète leur personnalité, mais aussi au moment où vous les rencontrez, parce que si en fonction du jour et de différents critères, on peut ne pas avoir aussi les mêmes attitudes ou avoir envie d'être photographié, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre. Quoi.
Tout à fait.
Ça peut être, ça aussi, c'est en fonction du moment, si je puis dire.
Absolument, c'est en fonction non seulement du moment...
Et du ressenti, comment on se sent à l'aise aussi face à l'objectif.
Face à l'objectif.
Ça n'est pas rien non plus.
Et puis également... Il y a un certain nombre de photos qu'on faisait dehors, et puis des fois, la météo était avec nous, et des fois, elle n'était pas avec nous.
Ah oui.
Donc, il y a aussi, je veux dire, c'est un certain nombre de facteurs qui entrent en jeu, qui sont quelque part, qui font partie des caractéristiques de la photo, c'est-à-dire, on fait des photos sur un instant donné. Et voilà. Et ensuite, bon.
Vous avez fait plusieurs prises par.
Oui. On fait plusieurs prises. Et il y avait aussi un certain nombre de prises qui étaient pour elle, c'est-à-dire qui étaient des portraits qui étaient faits que pour elle.
D'accord, voilà, oui. Qu'elle voulait garder, oui.
Pour leur propre, je dirais, album.
Oui, ça, je comprends, oui.
Voilà.
Oui, puisque vous, le parti pris. Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez. Est-ce que vous leur avez. Ça, vous l'avez décidé ensemble, c'est-à-dire de. Qui est comme ça que des mains qui apparaissent ou c'est en fonction avec la discussion vous êtes dit là c'est mieux de présenter
les mains.
Ah non,
pas du tout. Enfin, je veux dire, là ça se fait à l'instinct. Enfin, je veux dire,
d'accord.
Il y a un certain nombre de photos qui sont faites, pas que des mains, ça peut être.
Oui, non, mais je les mets sous
plein. Voilà.
Parce que ça m'a beaucoup marqué parce qu'il y en a plusieurs avec des mains et dans des attitudes différentes. Je me souviens celle qui donne la main à quelqu'un plus, mais on voit les ongles, des ongles longs et il y a deux mains quoi. Et puis et c'est la même qui après à la main. Sur une épaule.
Oui,
avec aussi, une veste très colorée aussi. Il y a des oranges, marrons, enfin des côtés assez vifs.
Alors, ce sont des gestes très forts, justement, et qui font partie de l'histoire de cette personne, de l'histoire de sa reconstruction, de l'histoire de son intimité, de sa famille. Donc.
Oui, des proches.
Voilà. Donc, c'est quelque chose qui était très important.
Mais aussi dans les termes qui sont évoqués, quand elles répondent aux questions, le petit condensé après que vous faites, qui sont aux quatre questions, quoi, finalement. Ça revient souvent que si quelqu'un m'avait aidé ou si quelqu'un m'avait tendu la main, enfin, au sens très large du terme, ça revient assez souvent.
Alors effectivement,
il me semble.
Il y a des. Je dirais qu'on retrouve des faits comme par exemple se sentir dépossédé, se sentir un objet.
Oui,
c'est quelque chose d'assez. Qui a été dit à plusieurs reprises.
Qui est assez récurrent, oui, bien sûr.
Qui est assez récurrent. Pour autant, ce dont je me suis rendu compte, si on fait légalement des grandes classes de ces agressions, on va classer les viols, on va classer
les attouchements,
on va classer les exhibitions, il y a des classes différentes.
Les allusions salaces, enfin,
tout ce qui est sexiste.
Il y a ça aussi, quoi.
Voilà. Pour autant, chaque témoignage est unique, c'est-à-dire chaque témoignage est vraiment. Quand j'avais discuté avec l'association France Victime, m'avait dit on fait du cousu humain. Je me suis dit oui, c'est vrai. En fait, je pense que je pourrais rencontrer 100, j'aurais 100.
Il y aurait 100 histoires différentes.
Totalement.
Parce que chacune est avec. Son histoire, la façon dont elle l'a vécue, enfin, oui.
Voilà, donc après, chaque fois, c'est des mots, effectivement.
Bien sûr.
C'était ça aussi, le travail, essayer de trouver dans un texte quand même, qui est quand même conséquent, mais qu'enfin, quand même, on résume une heure d'interview en quelques phrases.
C'est très court.
C'est quand même court, je dirais, par rapport à tout ce qui a pu être dit, et d'être le plus précis possible et... le plus en accord avec les paroles. Après, chaque texte était relu, chaque triptyque a été validé.
C'est-à-dire, vous et elle, vous le relisiez, c'est ça?
C'est-à-dire que moi, j'ai proposé des textes qui pouvaient ensuite être
modifiés,
amendés, si elles estimaient que ce n'était pas assez précis,
ou
qu'il fallait rajouter quelque chose, ou au contraire enlever quelque chose. Et ensuite, le triptyque photographique, moi j'ai quand même pas mal de photos, et c'est des choix de sélection que je leur ai proposé là.
Que vous avez fait ensemble aussi ?
Non, là pour non. Ah ben non, là pour le coup c'est un travail différent.
D'accord, non, c'était juste
comme
une question.
Je dis, l'idée c'était qu'on se rencontrait vraiment une fois. Après on faisait plus de la validation, de la relecture. Et là, pour le coup, sur les triptyques, il n'y a pas eu de remise en, cause. Quoi.
Voilà. Il y en a une aussi qui dit, je trouve ça très... qu'elle n'a pas pu se défendre parce que son corps, c'était... Elle dit...
Transformé en bloc de pierre.
De pierre, oui, c'est terrible. Quoi, parce qu'elle était, oui, elle était pétrifiée. Quoi, et donc, elle n'a même pas tenté parce qu'elle était... Oui.
Alors, effectivement, mais ça aussi, c'est ce que j'ai entendu à plusieurs reprises. C'est le fait de ne pas pouvoir réagir sur le moment, voilà,
d'être
complètement
tétanisé,
saisi.
D'être à la proie sans aucune défense.
Et qu'elle se reproche d'ailleurs, qu'elle se dit mais pourquoi j'aurais bien aimé pouvoir réagir, mais j'ai pas pu.
Oui, c'est terrible quoi.
J'ai pas pu du tout réagir. Et, et du coup aussi, s'en suit les messages, puisque chaque femme va pouvoir. A pu donner des messages. Mmh. L'idée aussi, c'était de faire passer des messages aux autres.
Oui, parce qu'il y a celles qui disent aussi, personne ne l'est venu à mon secours, sauf une personne qui a essayé de chasser, puisqu'il y en a une qui est poursuivie plus ou moins, elle est à vélo et on la poursuit.
Voilà.
Et qu'il n'y a qu'une personne qui a osé, parce que bon, des fois, il n'y a personne aussi, ça peut être... Après, il y a aussi les violences familiales, alors ça, c'est à l'intérieur, donc c'est encore autre chose.
C'est encore autre chose.
C'est encore un domaine. Et des fois, il y a les enfants, en plus, qui voient leur mère se faire tabasser, quoi.
Voilà.
Ça, c'est encore un autre domaine. Donc là, c'est...
Après, des fois, tout se mélange. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir tout en même temps.
Oui, bien sûr. Oui.
Le viol conjugal,
plus l'agression dehors.
Plus, plus les violences conjugales, plus etc. etc. quoi. D'ailleurs, ça a été le cas dans les femmes que j'ai rencontrées aussi. Quoi.
Oui.
Voilà. Et donc, dans ces messages où, effectivement, elles vont dire... Bon, ben, d'une part, comme vous l'avez dit, j'aurais aimé être secouru, j'aurais aimé être entendu, j'aurais aimé être
cru aussi,
reconnu.
Parce que certains, parce qu'il y a quelqu'un, je ne pense pas me tromper, qui dit qu'en fait, quand elle l'a dit, on ne l'a pas cru. On lui a dit non, mais d'autant plus qu'il y a aussi certaines personnes. Ce qui m'a frappée, c'est que certaines personnes. Elles ont eu des agressions dans leur enfance et puis après à l'âge adulte, quoi. Alors différentes. Après, bon, il y a les histoires dans les camps de vacances où des moniteurs, entre guillemets, se permettent des choses qu'ils n'ont pas... Hein, voilà, ils ne sont pas là pour ça, ils sont là pour les encadrer et pas pour profiter. Enfin, c'est terrible, quoi.
Et oui, malheureusement, là aussi...
Parce qu'il y a des personnes qui ont été agressées dans leur... soit dans la petite enfance, soit dans l'adolescence ou grande adolescente, comme je dis grande adolescence, et puis après, quelques années plus tard, elle se retrouve soit avec un compagnon violent, soit dans la rue, un abruti qui...
Beaucoup de ces personnes, effectivement, ont vécu plusieurs agressions.
C'est monstrueux, quoi.
Ça aussi, c'est... ça commence effectivement dès la plus tendre enfance.
Des fois, dans le cercle très proche, des fois, ça peut être aussi un oncle, enfin, voilà.
Voilà.
Et
l'une des femmes, donc, un peu plus âgée, je veux dire un peu plus âgée, parce qu'en fait, c'était tabou. Enfin, beaucoup moins maintenant, mais... Oui. Enfin,
oser dire,
mais il y a, je dirais, plusieurs 10 peut-être ou 20 ans en arrière, on ne pouvait pas s'exprimer là-dessus. Et donc, voyez bien qu'il se passait des choses pas normales et qu'elle était, qu'on lui faisait subir des agressions, mais qu'ensuite elle ne pouvait carrément pas en parler. Et même si elle en parlait, c'était plutôt du style, en fait, c'est sa faute, quoi. Hein.
Oui, tu n'avais pas qu'à être là à ce moment-là, quoi.
Qu'à pas faire ça.
T'avais qu'à faire attention.
Ou
tu l'as cherché, le truc très classique, quoi.
Voilà.
Qui justifie, qui est dans un truc patriarcal comme ça, et machiste, bien ancré dans les mœurs, si
voilà.
On peut dire.
Alors bon, fort heureusement, les choses
évoluent mais...
quand même à ce niveau-là.
Mais après, il y a même celles qui, même si ça évolue, il y a aussi pouvoir avoir, comment dire... la force d'oser en parler, parce que ce n'est pas souvent les personnes comme ça qui sont agressées sexuellement disent qu'elles ont honte aussi, entre guillemets, qu'elles ont eu la culpabilité, la honte. Et donc, pour passer ce cap, pour après en parler à quelqu'un déjà, et puis bon, ça fait remonter, ça fait revivre aussi l'histoire.
Tout à fait.
Et puis, oser en parler, et puis se dire, est-ce que je vais être entendue ?
Entendue, crue.
Ça fait beaucoup de choses, quoi, pour pouvoir faire le pas.
Mais il y a une des personnes, effectivement, une jeune femme, hein, qui a vécu donc des faits d'exhibition, et de, voilà, et qui en a parlé à ses amis qui ne l'ont pas cru. Voilà, qui l'ont un peu... voilà, après un peu ça,
à la rigolade.
À la rigolade, hein, voilà. Donc, effectivement, c'est presque pire.
Ah oui, c'est... Je vous propose peut-être que nous fassions une petite pause musicale pour après continuer l'entretien.
Parfait.
après ces quelques notes apaisantes, nous allons reprendre la conversation. Oui, parmi tous dans ces témoignages, dont il y a notamment une dame de 75 ans, ou 74, donc c'est la plus âgée. Après, il y en a qui sont beaucoup plus jeunes, il y a une la jeune fille de 20 ans, puis il y en a qui ont 50, enfin bref. C'est
un peu tous les âges.
Voilà, oui. C'est vraiment, oui, un éventail des âges. Mais souvent, ça revient qu'elles ont mis beaucoup de temps entre le moment où ça leur est arrivé et le moment où elles ont osé en parler. Et ça revient très souvent, quoi, parce que ce n'est pas évident de parler de, d'une part, il y a cette douleur, cette dépossession de soi.
C'est une humiliation, oui.
Mais oui, c'est de l'humiliation d'oser en parler et surtout d'être prise en considération, parce que si c'est pour quelqu'un qui vous rionnait, c'est pas la peine, ou qui vous dit t'as qu'à pas être là.
C'est pire.
Et puis après, c'est quand ça se passe aussi à l'intérieur, quand c'est les violences conjugales. Là, c'est encore dans un cercle fermé, enfin, c'est. Donc il y a comme ça ce temps de d'oser pouvoir en parler et puis aussi de comment se reconstruire, parce que selon les toutes n'ont pas agi de la même manière, certaines se sont fait aider de façon plus soutenue que d'autres, en fait c'est aussi en fonction de chacune, comment pour pouvoir continuer à vivre malgré tout.
Alors effectivement il y a ce constat que voilà la libération de la
oser
parole. Parler je dirais
c'est un premier pas
mais
ça ne suffit pas,
qui est difficile
déjà
difficile
à le faire
difficile à faire donc et bon les cas sont différents mais il y en a beaucoup qui il y en a en particulier une qui a parlé à plusieurs reprises, mais malheureusement qui n'a pas été entendue. Donc il y a tous ces cas qui sont évoqués, donc qui soulèvent aussi des questions.
Pourquoi elles ne sont pas entendues?
Qui soulèvent des questions sur la prise en considération, sur la prise en charge, sur voilà malgré tout ce qui existe, tous les dispositifs qui existent, parce qu'on peut voir.
Il y a des numéros,
il y a des associations, beaucoup de choses.
Il y a des cellules d'accueil.
Et il y a beaucoup d'aide quand même qui est proposée.
Il y a de l'information aussi. Quand c'est non, c'est non.
Il y a des dispositifs qui sont mis en place. Là d'ailleurs sur à l'espace des laïcités et diversité on peut trouver beaucoup de documentation, il y a des livrets, donc on en mettra aussi au niveau d'exposition, donc tous ces dispositifs d'aide. Pour autant on voit que pour ces femmes là ça n'a de toute façon pas été simple. Voilà, en tout cas celles que moi j'ai
vous avez rencontrées. La
reconstruction, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte,
et puis aussi par rapport à leur vie intime,
leur vie intime, l'impact que ça peut que ça a aussi sur le court et le moyen et le long terme. C'est pour ça que je parle de plaies et de cicatrices. Donc il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a le fait de s'exprimer dans un cercle déjà dans un premier cercle de proches.
Restreint, oui.
Voilà, restreint. Et puis, il y a aussi le fait de porter plainte ou pas.
Non, ça, c'est encore autre chose, oui.
Mais ça fait partie, ça peut faire partie aussi de la reconstruction.
Bien sûr, oui.
C'était l'une des choses aussi qui ressortait quand on a eu une longue discussion avec un avocat qui s'occupe donc de ces cas-là. Il disait, voilà, le fait de porter plainte, ça fait partie de la reconstruction, mais pas que. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'on a gain de cause que tout d'un coup, tout
Oui, ce n'est pas parce que la loi s'en mêle qu'au niveau corporel, personnel, au niveau psychique...
Tout est réglé.
Ouais, ouais, voilà.
Si tant est qu'on a effectivement un gain de cause.
Il y a ça aussi, oui, en plus.
Parce que dans les cas que j'ai rencontrés, il y en a une qui a porté plainte. Qui a dû porter plainte de nombreuses fois avant...
Qu'on veuille bien prendre sa déposition, entre guillemets.
Effectivement, reçue et que ça aboutisse. Avec l'aide, effectivement, elle s'est rapprochée d'une association pour se faire épauler. Ça finit par aboutir, mais je pense qu'il faut être quand même...
C'est un long chemin.
C'est un long chemin, faut vraiment être
solide
et fort.
Et pas se laisser...
Je reviens sur cette notion de force.
Oui, c'est puiser en soi tout ce qu'il peut faire pour pouvoir se faire aider, pour pouvoir avancer, pour pouvoir...
Voilà, l'autre qui dit effectivement, il faut accepter la main tendue et pas la lâcher. Je trouve que c'est très beau message, parce qu'effectivement, des mains tendues, on peut en avoir.
Oui. Il faut la garder.
Il faut effectivement s'y accrocher. Oui, oui. Voilà. Et justement, cette femme qui malheureusement a porté plainte, mais qui n'a pas été... dont la plainte n'a pas été... Enfin, a été déboutée, quoi. Hein, et c'est quand même... comment dire, une douleur importante qui va rester, quoi.
Et ça pose aussi le problème de la formation des gens qui sont de, notamment des officiers de police qui sont censés aussi pouvoir entendre ces femmes et pouvoir le prendre en compte.
Alors, je dirais,
il y a aussi une histoire de formation.
Je dirais qu'il y a de l'histoire de formation. Moi, les gens que j'ai rencontrés, et là encore, je réserve ma parole aux personnes que j'ai rencontrées.
Oui, bien sûr, oui.
J'ai aussi rencontré donc des personnes qui sont là pour venir en aide. J'ai rencontré le gendarmerie. Oups.
Ah, non, il y a eu un petit truc. Oui, pardon. Une fausse manœuvre.
J'ai rencontré le lieutenant gendarmerie, j'ai rencontré une association France Victimes, j'ai rencontré un avocat, j'ai rencontré des cellules d'écoute. Oui. Enfin bon, c'est pas exhaustif, mais j'en ai rencontré plusieurs. Et je peux vous garantir que toutes ces personnes sont vraiment extrêmement investies, très volontaires et pétries de motivation.
D'empathie.
Pour aider ces personnes. En particulier au niveau de la gendarmerie. Il y a des procédures quand même maintenant qui sont...
Oui, ça s'est amélioré.
Voilà, où quand il y a un appel d'urgence, il y a une patrouille qui intervient normalement très rapidement dans les 10 minutes.
Oui, oui.
Donc il y a des procédures et des formations qui sont faites. Donc voilà, il y a quand même...
un progrès.
Enfin, beaucoup de d'action. On voit bien qu'il y a une espèce quand même encore de grand écart entre toutes ces actions et toutes ces choses très très positives,
très concrètes,
pour venir en aide, et le fait que aujourd'hui sur les 10 femmes que j'ai rencontrées, il y en a peu qui ont
porté plainte,
qui ont porté plainte et qui ont qui se sont faites, enfin qui ont été auprès d'une association, ou se rapprocher d'un numéro d'appel, par exemple. Voilà.
Mais aussi l'histoire de la prescription, enfin quand c'est pas, enfin c'est compliqué d'un point de vue juridique aussi, dans la mesure où des personnes qui ont, mettons, qui ont 60 ans, et ça s'est passé il y a très longtemps, pour qu'après, même si elles peuvent toujours porter plainte. Mais il y a cette histoire aussi qui est compliquée.
Oui, il y a ça, mais je pense qu'aussi, d'abord, je pense que les procédures, quand on rentre dans un processus de justice, je pense que c'est des procédures qui sont quand même longues.
Ah, c'est long,
donc
oui.
C'est quand même...
c'est fastidieux. Hein.
C'est très, très, très long. Et en attendant, il faut
vivre.
Se débrouiller, quoi.
Oui, il faut vivre.
Donc ça, c'est quand même un frein important. Et puis aussi la peur.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a... Enfin, ouais, on a peur. Il y a des femmes qui ont peur.
Bien sûr.
Du violeur, bien peur, oui. Des menaces, qui se font menacer, peur
de, oui, si tu parles, je...
peur, voilà, si tu, voilà, voilà, c'est quand même, il y a tout ça
qui entre en jeu, oui, ce n'est pas simple, oui.
Imaginez la femme qui se fait violenter par son conjoint et qui va porter plainte. Imaginez si elle est déboutée, qu'elle revient chez elle, c'est pas dit que ça se passe très bien à la maison.
Elle risque de recevoir, ça risque d'être pire, quoi. Enfin, oui, c'est ça, oui. L'écueil, oui, c'est vraiment fort compliqué. Là, j'aimerais que nous revenions sur quelque chose peut-être plus technique au niveau des photos, dont notamment de la première photo du triptyque, qui est l'endroit où ça s'est passé, et puis où apparaît une silhouette de visage, si on peut dire. Je ne sais pas si le terme est exact. J'aimerais que vous expliquiez ce procédé.
Là, en fait, l'idée, à la base, c'était qu'il y ait une intégration. Quand je dis intégration, c'est incrustation. Je ne sais pas si le terme est parfaitement bien choisi. De la femme dans le lieu et réciproquement. C'est-à-dire qu'elle a été marquée, ce lieu lui reste en tête puisqu'elle me l'a décrit, il est incrusté quelque part dans sa mémoire.
Dans sa chair.
Dans sa chair.
Profond d'elle-même.
Et quelque part, le lieu aussi est marqué. Donc c'était ce que j'ai voulu...
Signifier
et tracer. Quand je dis tracer, c'est mettre une trace
au sens du terme. Strict premier du terme.
C'est ça. Et donc, et l'idée, c'était toujours cet anonymat. Donc là, ça a été pas beaucoup de réflexion. J'ai fait plusieurs essais à partir des portraits que j'avais. Et voilà, l'idée est venue de ce trait qui soit effectivement parfaitement la femme, mais qui reste on ne puisse absolument pas deviner qui ça peut être.
Il y a la forme d'un nez, d'une bouche, voilà. Mais bon.
Donc ça vient d'une photo. En fait, c'est une photo, c'est un trait qui vient d'une photo.
C'est une photo d'une photo prise de profil, c'est ça ?
C'est ça, c'est une photo, et à partir duquel j'ai extrait ce profil.
Ça, c'est un procédé technique.
C'est un procédé technique, voilà.
Et après, vous l'incrustez sur le paysage, c'est ça ?
Voilà.
J'ai bien compris.
Sur le paysage, en respectant le fait que pour moi chaque femme devait avoir exactement la même place, c'est-à-dire la même taille, je dirais, de profil dans la photo. Il n'y en a pas des petites, des grandes, des moyennes. Voilà, c'est une égalité parfaite.
Oui, c'est au centre pratiquement du paysage,
et au centre
ou de l'immeuble, enfin peu importe.
Elle est au centre.
Elle est
au centre, et c'est le principal.
Non, c'est lui. C'est comment dire, travailler sur son identité tout en restant dans l'anonymat.
Exactement.
C'est lui redonner un visage, mais un visage que personne ne peut reconnaître.
Voilà. Elle, mais elle le sait.
Oui, elle, je me doute bien.
Voilà, c'est important.
Oui. Oui, non, elle sait très bien que c'est elle. Mais bon, après, c'est comme ça, ça signifie un visage, quelqu'un dans. Oui, parce qu'un visage, c'est ce qu'on voit en premier, mais personne ne peut. Voilà. Les potentiels visiteurs et visiteurs
pourront les identifier.
Voilà. Donc ça, c'est important pour rester justement dans cet anonymat.
Et pour être toujours dans la représentation de ces femmes. Voilà, aussi.
Mais qu'elles existent en tant qu'être.
Oui, en tant que
qu'être vivant, qu'être de vie, de.
Voilà.
De vie, d'envie, de
pulsion. De reconnaissance, de présence, de reconnaissance. De personnalité, voilà, c'est personnalité. Ce sont des personnalités.
Bien sûr. Et en plus, comme ce n'est qu'un trait, bon, ça fait penser aux silhouettes, même, je pense qu'on ne peut pas dire silhouette, mais bon, pour toutes, comment dire, centrées de la même manière, la même taille, tout ça, donc un trait blanc qui dessine le contour d'un visage, ça leur redonne vie, ça les place, mais on ne peut pas, comment dire, rien ne transparaît au niveau de. On ne peut pas savoir si, quand vous avez pris la photo, elles étaient tristes, si elles étaient accablées. C'est un trait de vie, quoi, si on peut dire.
Ah, mais le visage était volontairement. Enfin, d'abord, c'est une posture qu'elles ont prise, mais il est droit. Il est fier.
Je m'affirme.
C'est un visage fier, c'est pas du tout un visage triste.
Oui, je m'affirme, je suis là, j'existe en tant que femme, oui.
Et effectivement, je reprends ce que vous avez dit sur le mot trace, parce que c'est quelque chose qui est important en photo. Souvent, prendre une photo, c'est pour laisser une trace.
Oui, bah oui.
Et donc, c'est une trace. Voilà.
Et comme en plus, c'est sur tous les fonds, c'est blanc, c'est toujours blanc, donc aussi, ça apparaît davantage. Quoi.
Oui, et puis
ça veut dire quelque chose.
Ça veut dire quelque chose aussi, voilà.
Oui. C'est symbolique aussi. Oui, il y a tout ce travail symbolique que vous avez effectué.
Tout à fait.
D'accord. Vous voulez juste, parce que c'est précisé, mais je préfère que ce soit vous qui le disiez, dans l'exposition, la qualité des photos, en fait, du papier sur lequel les tirages ont été faits.
Alors, les tirages, ils ont été faits par un laboratoire avec lequel je travaille depuis très longtemps, qui est le laboratoire Photon. Donc, ce sont des tirages faits par ce laboratoire professionnel. Et ce sont donc des œuvres qui font 1,20 m de long. Sur 50 cm de haut, donc c'est quand même assez grand, donc on rentre un peu, l'idée c'était aussi de rentrer dedans, quoi, d'être un peu submergé, je dirais, par les photos.
Voilà. D'accord. Là, je sais qu'il faut que vous nous quittiez avant 14h, j'ai bien retenu la leçon. Donc, le vernissage est demain, 18h30, l'exposition est visible jusqu'au 3 décembre, du mardi au samedi, c'est ça ?
Du mardi, du lundi aussi. Ce n'est fermé que le dimanche.
En sachant qu'ils ont des horaires très élastiques.
Une belle amplitude, de 9h à 20h tous les jours.
Et des fois jusqu'à 22h, certains soirs.
Ça peut être plus long. Et le samedi après-midi, de 14 à 18 ou 20, je ne sais plus.
Vous ferez des permanences ?
Alors, le samedi après-midi, j'y serai quasiment tous les samedis, mais sur des temps courts. je peux être là sur rendez-vous pour faire des visites ou des accompagnements. Peut-être quelque chose aussi qui me semble intéressant, donc il y a aussi un livret dans l'exposition qui trace les interviews que j'ai eues avec les structures,
les structures d'aide.
Donc qui sont aussi des messages importants sur comment ces structures
travaillent,
quels sont leurs processus et comment elles viennent en aide, donc aussi leur investissement, mettre en avant les
investissements. C'est important de le faire savoir que telle structure existe vers qui il est possible de se tourner.
Voilà, alors c'est pas exhaustif, c'est pas très exhaustif, et puis dire aussi qu'il y a un volet 2, je dirais, de ce projet qui va se passer à la Brique Rouge au mois de mars,
c'est-à-dire en Palau.
Et en particulier, il y aura un débat qui sera fait le lundi 6 mars au soir, où on va travailler, on va discuter sur les messages de ces femmes.
Il y aura aussi l'exposition sur les
L'exposition. Et également, il y a dans l'exposition actuellement une boîte qui s'appelle une boîte à mots, qui est faite pour recueillir tout type de témoignages, de messages, d'expressions qu'aurait envie de partager le public. Boîte qui est fermée, c'est-à-dire
c'est comme une urne.
C'est comme une urne, personne ne peut aller lire, ce sont des messages qui peuvent être personnels, personne ne peut aller lire les messages des autres. Et donc là aussi, je ferai...
Vous servirez de ce matériau.
Je verrai effectivement.
Oui, s'il est possible de...
J'ai aucune idée de ce qui sera mis dans cette boîte, mais ça pourra servir de matériel à discussion.
Et la discussion sera animée par qui ? Avec qui ? Avec des spécialistes ?
Alors, il y aura des spécialistes, ça c'est en cours de construction. D'accord. Donc là, je ne peux pas encore le dire aujourd'hui, parce que ce n'est pas complètement défini. Mais oui, ce sera avec des spécialistes, justement, de... Donc, je sais déjà qu'il y aura France Victime 31, et après, ça se construit, quoi, voilà.
D'accord.
C'est en cours de mise en place.
Ok. Vous avez des personnes à remercier, des organismes pour... je ne sais pas.
Alors, la première...
L'espace de laïcité.
Oui, c'est l'espace de laïcité à la mairie de Toulouse qui s'investit beaucoup pour ces questions-là et que je remercie infiniment. Pour toutes ces actions. Toutes les structures qui ont accepté de participer à ce projet, les femmes, bien évidemment, dont je suis infiniment reconnaissante pour tout ce qu'elles ont apporté.
D'avoir partagé avec vous.
D'avoir donné, et j'espère donner tous ces messages qui, j'espère, seront une sensibilisation
à
ces problèmes-là. Voilà, donc le CROUS, le partenaire initial de ce projet, la régie de quartier qui a prêté le lieu, et j'en oublie sûrement, et vous qui me recevez aujourd'hui.
C'est normal de faire savoir les choses. D'accord, parfait. Donc c'est jusqu'au 3 décembre, et demain ben, vous serez là pour le vernissage, j'imagine.
Je serai là pour le vernissage, voilà. Bien sûr.
18h30. Il faut préciser, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, que les expositions photos sont sur la mezzanine.
Ah oui, voilà. En fait, ce n'est pas visible de
l'extérieur.
De l'extérieur, il faut effectivement pénétrer.
Il faut rentrer, ouvrir une porte et monter un escalier.
Et monter à un étage, tout à fait. Vous faites bien de
oui, parce qu'il faut le savoir. Et le vernissage a lieu là, sur la mezzanine ou
a lieu sur la mezzanine, en fait.
D'accord.
Voilà, c'est pas l'espace d'accueil en bas. Quoi.
Oui, oui, d'accord. Donc voilà, il suffit juste de pousser la porte et de monter un escalier métallique.
Voilà.
Et donc jusqu'au 3 décembre, avec ces horaires très élastiques, ce qui permet à beaucoup de personnes peut-être de pouvoir aller la voir.
J'espère, voilà, qu'effectivement, il y aura beaucoup de personnes qui pourront lire ces témoignages, être sensibilisées, émues et partager peut-être d'autres témoignages. En tout cas,
et peut-être des personnes qui n'oseraient pas aller porter plainte, se dire que oui, c'est possible.
En profiter pour prendre connaissance de toutes les aides.
De tous les organismes, les associations qui existent pour cet accompagnement.
Voilà. Et aussi bien, je précise, aussi bien en tant que victime que témoin.
C'est-à-dire bien sûr.
Il ne faut pas oublier que les témoins sont essentiels là-dedans.
Ah ben oui, au combien.
Donc, faut pas hésiter d'une part à réagir, à témoigner, etc.
Donc, ça s'appelle des mots à l'image, les mots pluriels de mal, mais avec toujours un clin d'œil, enfin bon, bref.
Voilà. Tout à fait.
Je vous remercie beaucoup et je vous libère, puisque je sais que votre temps est précieux. Merci beaucoup.
Je vous remercie, merci.
À bientôt, au revoir.